Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Visite du pape François dans le diocèse de Cassano allo Ionio, en Calabre. Visite dans les périphéries de la société italienne, notamment avec les détenus d'une prison, des malades, des pauvres et des personnes âgées. Visite du pape marquée par l'ombre de la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Après la mort d'un enfant de 3 ans, tué lors d'un règlement de compte dans la région, le pape a lancé cet appel « Plus jamais cela ». Le Kenya, face aux attentats des Chebabs somaliens, interpelle tous les Somaliens vivant sur son territoire. Une vague d'arrestations qui n'est pas sans soulever certaines questions, comme le fait Human Rights Watch. Livre pour Dieu, il s'agit de Saint Philippe Néri, un ludion mystique, un ouvrage écrit par Philippe Le Guillou. Et comme toutes les semaines, nous entendrons le commentaire de l'évangile de ce dimanche du père Pascal Montavi. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Avec donc ce quatrième voyage du pape en Italie, en Calabre, dans le sud du pays, dans le diocèse de Cassano allo Ionio, le pape s'est rendu dans une région gangrénée par le manque de travail, la corruption et le crime organisé. Une périphérie si chère à son cœur, une périphérie avec laquelle il a tenu à s'entretenir particulièrement. Le pape a ainsi déjeuné avec des pauvres de la Caritas diocésaine et des jeunes en réhabilitation. Il a auparavant rencontré les malades de l'hospice San Giuseppe Moscati, mais sa journée, il l'a commencé par la visite de la prison de Castrovillari, où il a invité les détenus à la réinsertion dans la société par une rencontre avec Dieu. Antonino Gallofaro.
La réinsertion était au cœur de cette première intervention du pape, car il explique que l'exécution d'une peine ne doit pas être dégradée à un unique instrument de punition et de rétorsion sociale. Ce serait nocif à la fois à la personne, mais aussi à la société. Il a donc demandé un engagement concret des institutions pour une réinsertion effective des détenus dans la société. Et ce parcours n'est pas seulement humain, comme l'a détaillé François, mais il s'agit aussi d'un cheminement à la rencontre avec Dieu, car ce dernier est capable de nous comprendre et de nous pardonner. En choisissant cette prison du sud de l'Italie, le pape ne s'est pas seulement adressé à ses prisonniers, mais à tous ceux emprisonnés à travers le monde. Il a espéré que la détention ne sera pour eux pas du temps perdu, mais l'occasion de demander et d'obtenir la grâce de Dieu. François a aussi profité de cette visite pour assurer de ses prières la famille du jeune Coco Campanlongo, un enfant de 3 ans tué puis brûlé dans une voiture aux côtés de son grand-père il y a quelques mois dans le cadre d'un règlement mafieux.
Antonino Gallofaro. Et la mafia, il en a été question lors de la messe célébrée à Sibari. L'évêque des lieux, Mgr Galantino, l'a évoqué très clairement dans son message de bienvenue au pape, parlant de délinquance organisée qui ralentit le processus de croissance. Mais, a-t-il ajouté, la 'Ndrangheta, le nom de la mafia calabraise, ne se nourrit pas uniquement de l'argent sale, mais elle est nourrie également par les consciences endormies et par conséquent complices. À l'occasion de cette messe, 250 000 personnes se sont retrouvées en plein soleil dans l'après-midi de ce samedi pour cet ultime rendez-vous avec le pape François qui lui aussi n'a pas évité le sujet de la mafia. Marie Duhamel.
Pas d'ambiguïté possible pour le pape, la 'Ndrangheta est synonyme d'adoration du mal, de mépris du bien commun. François, sur leur terre, s'en est pris aux mafieux, affirmant qu'ils sont excommuniés quand l'adoration du Seigneur se substitue à l'adoration de l'argent, a-t-il poursuivi, s'ouvre alors la route du péché, de l'intérêt personnel, de l'abus. Ce mal qu'incarne si parfaitement la mafia calabraise doit être combattu, éloigné. L'Église doit ainsi, selon le pape, toujours plus se dépenser pour que le bien puisse prévaloir. Mais l'Église n'est pas seule dans ce combat. Il y a aussi les fidèles que le pape a invités à renoncer à Satan et à toutes ses séductions, aux idoles de l'argent, de la vanité, de l'orgueil, du pouvoir. Le pape n'a donc pas hésité à fustiger et condamner cette criminalité que la Calabre ne connaît que trop bien, afin que les jeunes ne voient pas leur espoir voler. C'est avec Jésus que les fidèles sont appelés à marcher, non avec la mafia locale. C'est Jésus qui est amour et qui s'est donné pour nous sur la croix. C'est Jésus qu'ils doivent adorer et rien d'autre.
Marie Duhamel. Le pape a rencontré les prêtres du diocèse de Cassano allo Ionio dans la cathédrale. La joie d'être prêtre et la beauté de la fraternité, ce sont les deux points que le pape a soulignés dans son discours qui leur a consigné. Il s'y réjouit de ce qu'il y a de plus beau dans le sacerdoce, la surprise toujours renouvelée d'être appelé par le Seigneur Jésus, appelé à le suivre, à le porter aux autres avec sa parole et son pardon. Le regard de Jésus, poursuit le pape, nous renouvelle et nous réanime. Mais cette joie ne vient pas sans un bémol. Il n'est parfois pas facile de rester devant le Seigneur, car nous sommes pris par tant de choses, tant de personnes, nuance-t-il. Ce regard de Jésus peut même inquiéter un prêtre, le mettre en crise, précise le pape. Mais cela nous fait du bien, lance-t-il. Pour plus de précisions sur ce discours et sur ce voyage en Calabre, une seule adresse, www.radiovaticana.va. Rendons-nous maintenant au Kenya qui connaît une vague d'attentats et d'attaques depuis plusieurs semaines. Le pays paiela son engagement en Somalie contre les Shebab. Ceux-ci avaient promis de faire payer à Nairobi son intervention dans la guerre qui ne cesse de ravager la Somalie depuis presque un quart de siècle. Que ce soit dans la capitale ou sur la côte, très touristique, les islamistes somaliens sont très actifs. Face à cette vague de violence, le gouvernement kényan a lancé une vague massive d'arrestations de ressortissants somaliens très nombreux au Kenya. La plupart sont des réfugiés. L'ONG Human Rights Watch s'inquiète toutefois de cette opération, dénonçant des rafles massives, des arrestations arbitraires et des conditions de détention scandaleuses pour les personnes interrogées, sans compter le fait jugé illégal par l'ONG d'expulser des personnes vers des zones de conflit. Laetitia Bader, spécialiste de la Corne de l'Afrique pour Human Rights Watch, revient sur cette situation.
Depuis le début de cette opération, la police kényane et les forces de sécurité utilisent des tactiques abusives et discriminatoires. On a documenté maintes cas d'arrestations arbitraires, des détentions arbitraires dans des conditions de détention déplorables, d'hommes, de femmes, aussi d'enfants. Et aussi, nous critiquons l'opération par rapport à l'objectif même de l'opération. Les autorités kényanes ont dit qu'ils cherchaient à identifier les étrangers sans documents au Kenya. Actuellement, le contexte est un peu un cercle vicieux, surtout pour les Somaliens au Kenya, parce que depuis 2012, en fait, le gouvernement n'enregistre plus les nouveaux arrivés. Donc, il y a des milliers de personnes au Kenya actuellement qui n'ont pas pu s'enregistrer. Surtout, bien sûr, les demandeurs d'asile depuis 2012 ne peuvent plus demander l'asile. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux où des Somaliens se retrouvent arrêtés parce qu'ils n'ont pas de documents, mais n'ont pas pu avoir de documents.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce sont quelques centaines de personnes qui ont été arrêtées, interrogées, transférées dans des camps, détenues dans des conditions que vous jugez scandaleuses. De quoi s'agit-il exactement ?
Donc, nous avons, dès le début de l'opération, en fait, visité certains de ces centres de détention. Donc, c'est des stations de police tout à fait normales dans la capitale du Kenya, Nairobi. Dans les centres de détention, nous avons vu des centaines de personnes. Donc, vraiment, où il n'y a pas du tout d'espace, manque d'accès pour les besoins sanitaires, manque de nourriture et d'eau. Mais aussi, dans certains cas, nous avons aussi vu des détenus qui se faisaient, en fait, taper avec des bâtons par les policiers dans les stations de police. Nous avons aussi parlé à des ex-détenus, en fait, qui ont été relâchés en général après avoir payé des sommes vraiment incroyables pour pouvoir sortir des centres de détention. Ils nous ont raconté aussi qu'ils ont été détenus beaucoup plus longtemps que les 24 heures qui sont stipulées sous la loi kényane. Certains d'entre eux vraiment se trouvent dans une situation de cercle vicieux où il semble de plus en plus, en fait, que le gouvernement kenya cherche vraiment à mettre une telle pression sur ces individus qu'ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus le choix que de retourner en Somalie.
Des propos recueillis par Manuela Afiji. C'est l'heure de retrouver le livre pour Dieu avec aujourd'hui Saint Philippe Néri, un Ludion mystique, un ouvrage écrit par Philippe Le Guillou. Dans la tradition des grands écrivains catholiques, l'auteur nous entraîne sur les pas de saint Philippe Néri, un saint léger, rieur, un espiègle, comédien et farceur, un ludion aux pieds légers, aimant la ville, la foule, les pèlerinages urbains, un homme pleinement homme et un homme d'église. Philippe Le Guillou a écrit plus d'une vingtaine de livres. Il a reçu en 1990 le prix Méditerranée pour La rumeur du soleil et le prix Médicis en 1997 pour Les sept noms du peintre. Sœur Catherine Aubin l'a interrogé en ce temps de Pentecôte afin qu'il nous explique cette expérience intense que ce ludion mystique a vécue dans les catacombes, ici à Rome.
Cette semaine, un livre pour Dieu qui nous raconte la vie d'un saint romain, saint Philippe Néri. Le titre de ce livre, Saint Philippe Néri, un ludion mystique. Son auteur, Philippe Le Guillou, qui a écrit de nombreux ouvrages et remporté de nombreux prix littéraires, nous raconte pourquoi ce livre et pourquoi ce titre si particulier.
J'ai toujours pensé que mon saint patron était saint Philippe Néri. Quand j'étais enfant, on célébrait ma fête le 26 mai. Et le hasard de la vie ont fait que paroissien de Saint-Eustache à Paris, paroisse desservie depuis les années 20 par des oratoriens, je fréquente donc depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant les oratoriens. Donc grâce à eux, j'ai certes entendu parler du cardinal de Bérulle, mais aussi de saint Philippe. Donc c'est la conjonction de ces deux éléments, à la fois mon saint patron et à la fois cette fréquentation des oratoriens, qui m'ont décidé à écrire ce petit livre. Alors, un ludion mystique, un ludion, c'est un personnage de danseur, c'est un personnage mobile, c'est un personnage qui bouge. Et saint Philippe, à Rome, était un véritable piéton de Rome, un marcheur qui entraînait dans son sillage extrêmement joyeux toutes sortes de disciples. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai donné à ce livre ce sous-titre, ludion mystique. Mystique parce que il est profondément habité par Dieu, il est profondément habité par la foi, il est même sujet à des extases qui vont d'ailleurs dilater son cœur au point que deux de ses côtes s'incurveront et garderont la trace de cette incurvation. Donc, en même temps, quelqu'un de dans la vie, dans la ville, et en même temps aussi profondément porteur de la parole de Dieu.
Alors justement, nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint, nous sommes après Pentecôte. Il y a une Pentecôte qui a été pour saint Philippe Néri le départ de tout, la Pentecôte 1544. Que s'est-il passé ?
Eh bien, il descend prier, il aimait beaucoup prier dans les catacombes de Saint-Sébastien. D'ailleurs, aujourd'hui encore, un hôtel signale aux visiteurs et aux pèlerins l'endroit de cette extase de saint Philippe. Et priant, il va brusquement sentir une sorte de feu, le feu de l'esprit, le feu du paraclet, qui entre en lui, qui brûle en lui, et son cœur va se dilater au point donc que ses côtes s'incurveront. Il gardera d'ailleurs, évidemment, la trace physique de cet embrasement de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, le trésor de la cathédrale de Naples conserve aujourd'hui encore deux des côtes de saint Philippe qui ont conservé cette marque justement de la courbure sous l'effet thermique de l'Esprit Saint. Donc c'est un personnage qui est à la fois dans les catacombes, là où il se retire pour prier, pour méditer près des ossements des martyrs et des premiers chrétiens, et en même temps, très vite ensuite, après ces moments de solitude et de prière ardente, si j'ose m'exprimer ainsi, il sort dans la ville, et c'est là qu'il marche et qu'il va justement lancer l'oratorio et rassembler autour de lui toutes sortes de jeunes gens décidés à le suivre.
Parmi les titres que vous donnez à saint Philippe Néri, il y a le laïc inconnu, l'orant des catacombes et justement ce ludion, ce chanteur mystique. Qu'est-ce qui caractérise saint Philippe ? La joie, la liberté, le mouvement ?
Tout cela. La joie parce qu'il est profondément drôle et impertinent même par moments. Les autorités qui désirent la pourpre cardinalis et toutes ces autres autorités, il les regarde avec beaucoup de défiance, voire même parfois d'humour. La liberté, il aime beaucoup, beaucoup surprendre. Le père Bouillet, par exemple, qui est l'auteur d'un très beau saint Philippe oratorien, lui aussi l'a comparé à Socrate. Donc c'est en même temps quelqu'un qui est toujours dans l'échange, dans la discussion, dans la rencontre, dans une joie contagieuse, dans une joie qui emporte et dans une liberté parce que finalement c'est pas du tout l'homme des appareils et des carcans. C'est un homme d'église, mais en même temps, il y a en lui cette joie, cette liberté, ce caractère aussi extrêmement imprévisible. Il est toujours là où on ne l'attend pas, mais pleinement fidèle à l'évangile, pleinement fidèle au message du Christ.
Philippe Le Guillou, interrogé par sœur Catherine Aubin, il est l'auteur de Saint Philippe Néri, un ludion mystique. Comme toutes les semaines, retrouvons maintenant le père Pascal Montavi qui nous propose son commentaire de l'évangile de ce dimanche 22 juin, fête du Très-Saint-Sacrement. Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. « Celui qui me mangera vivra par moi ».
Nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement. À cette occasion, nous méditons sur un passage du grand discours de Jésus sur le pain de vie au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus affirme « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ». Voyons plus précisément la portée de cette promesse. Jésus nous donne de communier, durant l'Eucharistie, à son corps ressuscité. Nous recevons donc Dieu lui-même, et cette communion nous donne la vie éternelle. Une parole de Jésus éclaire particulièrement ce mystère. « De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. » Jésus vit donc par le Père. En recevant le corps du Christ, nous entrons dans la vie trinitaire. Jésus est en nous, et nous vivons dans le Père en la personne de Jésus. C'est toute notre vie quotidienne, nos actes et nos paroles qui sont transformés par la présence de Dieu en nous. En effet, la communion que nous recevons dans l'Eucharistie ne reste pas sans effet. Elle transforme notre quotidien. Déjà, saint Hilaire de Poitiers, au IVe siècle, pose la même observation. Donc, ce qui nous donne la vie, c'est que, dans les êtres charnels que nous sommes, le Christ demeure en nous par sa chair et il nous fera vivre en vertu du principe qui le fait vivre par le Père. Il y a donc une admirable communion lorsque nous recevons le corps du Christ. Par Jésus, nous entrons dans la Trinité et nous vivons comme le Christ qui vit par le Père. De ce fait, notre vie ici-bas est transformée et nous héritons en plus de la vie éternelle. Mais bien sûr, un tel mystère suscite des objections. Les auditeurs de Jésus eux-mêmes s'étonnent. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Ce que Jésus nous révèle dépasse notre entendement. Ce n'est pas par un raisonnement scientifique, mathématique, que nous pouvons entrer dans ce mystère. Certaines personnes s'éloignent de l'Église parce qu'elles ne peuvent saisir, par leur raison seule, tous les mystères de la foi. Mais un chemin de foi est avant tout celui d'une expérience, d'une rencontre avec le Christ. C'est parce que nous l'avons rencontré vivant dans notre vie que nous croyons en Jésus. Ensuite, l'approfondissement de notre foi passe par la raison, la théologie, mais sans jamais oublier la prière. Sans elle, l'homme risque de s'éloigner du don de la foi qu'il a reçu au baptême pour entrer dans un intellectualisme où l'orgueil n'est pas absent. Dit autrement, il n'y a de théologie que faite à genoux, dans une attitude orante qui permet à la raison de se laisser illuminer par l'Esprit Saint. En ce jour, nous pouvons entendre cet appel que le Seigneur nous fait à renforcer notre dévotion eucharistique. Bien sûr, une des plus belles préparations pour recevoir la communion est celle que nous pouvons vivre durant l'adoration. En demeurant en silence devant le Saint-Sacrement, nous disposons nos cœurs à le recevoir. Nous posons aussi un acte qui témoigne de la dignité que Dieu donne aux hommes. Nulle autre créature sur terre ne peut adorer. Seul l'homme peut le faire. En attribuant à l'homme cette capacité, le Seigneur a pris un risque car ce dernier peut se tourner vers des idoles. Prions en ce jour pour que le Saint-Sacrement soit honoré toujours plus dans nos paroisses, nos églises, en esprit et en vérité.
C'était le commentaire de l'évangile du père Pascal Montavi. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.